Partie 1, compréhension orale. Cette partie du test comprend 3 sous-parties. Vous allez écouter 4 enregistrements. Vous écouterez chaque enregistrement 2 fois. Pendant l'écoute, répondez aux questions sur la feuille qui correspond. Suivez les instructions pour savoir quelle feuille vous devez remplir. Maintenant, prenez la feuille marquée d'une petite croix. Première sous-partie. Dans cette première sous-partie, vous allez écouter 2 extraits. Dans le premier extrait, vous allez écouter une interview de la chanteuse belge Angèle. Dans le deuxième extrait, vous allez écouter l'interview d'Enki Bilal, auteur de bande dessinée, à l'occasion de la sortie de son album Bug. Pour les questions suivantes, de 1 à 10, choisissez la bonne réponse A, B, C ou D. À chaque fois, une seule réponse est correcte. Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d'une petite croix. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire les questions de 1 à 10. Écoutez maintenant le premier extrait. Extrait numéro 1, interview de la chanteuse belge Angèle.
Bonjour Angèle.
Bonjour.
La thune, c'est avec ce morceau que démarre votre album. Et là tout de suite, on est pleinement dans votre univers. Ce côté acidulé, cette autodérision, cette faculté à rire de vos propres défauts. Vous ironisez beaucoup par rapport au narcissisme et à la gloire qui peut exploser du jour au lendemain. Mais il faut bien reconnaître que vous mordez un petit peu la main qui vous fait vivre. Ce sont les réseaux sociaux qui vous ont construite et propulsée.
C'est vrai, j'ai commencé par là. Et je crois que c'est à l'image de cette époque. Artistiquement, c'est facile de se développer seul. Pour moi, ça l'a été puisque j'ai commencé sur les réseaux sociaux avec des vidéos d'Instagram. Et ça a fait que les gens sont venus à des petits concerts qui sont devenus des plus grands concerts. Au final, j'ai fait une tournée avec seulement 2 morceaux qui étaient sur YouTube, que j'avais autoproduits. C'est la force des réseaux sociaux qui m'a permis vraiment de me développer artistiquement.
Sauf qu'il faut quand même avoir un petit peu de talent, parce que tous ceux qui postent une vidéo sur YouTube ne réussissent pas comme vous.
J'ose espérer que le talent y est pour quelque chose.
Qu'est-ce que vous avez de plus ou de moins que les autres ?
Je ne peux pas répondre à cette question, moi. Je remarque de plus en plus, à force de lire des choses, à force de voir les questions qu'on me pose, que l'autodérision et l'humour reviennent très souvent. Donc je pense que c'est quelque chose qui fait du bien à une époque où justement le narcissisme est devenu totalement assumé, voire carrément cool. Et donc la place de l'humour est un peu oubliée parfois, quand on est trop premier degré. Pour moi, l'humour est une immense arme.
Et côté musical, on est un peu dans le brol, pour reprendre un peu le titre de votre album. Alors ça veut dire quoi, brol ? C'est vraiment un mot qui appartient à la culture belge.
Oui, alors du brol, c'est comme du bazar. Quand on va au marché aux puces, c'est du brol. C'est tous ces objets un peu entassés. Il y a des souvenirs, il y a des choses récentes, il y a des vieilles choses. Il y a beaucoup de choses inutiles, voire obsolètes. Ça, c'est du brol. Et j'aime bien parce que c'est plutôt péjoratif, en général, quand on dit « il y a du brol ». C'est pas forcément bon, mais c'est pas non plus tellement négatif. C'est pas une insulte. Et j'aimais bien l'idée d'appeler mon album « brol » parce que ça rend la chose beaucoup moins sérieuse, en fait. Et les Belges me demandent « pourquoi brol ?» C'est comme si j'avais appelé mon album « inutile ». C'était un peu une blague pour dire « ça reste de la musique, c'est que du brol, en fait ».
Extrait numéro 2, interview du dessinateur Enki Bilal à l'occasion de la sortie de son album « Bug ».
Dans « Bug », vous interrogez notre incapacité à nous passer du numérique. Comment vous est venue cette idée ?
Il y a quelques années, j'ai plongé dans une piscine avec mon smartphone. J'en ai été privé pendant plusieurs jours. C'était une expérience très déstabilisante qui m'a permis de réaliser à quel point j'avais besoin du numérique et de tous les appareils qui y sont associés. Ordinateur, tablette, smartphone. Ma bande dessinée Bug fait partie d'une réflexion sur la place du numérique dans nos vies.
Vous avez beaucoup travaillé sur la dictature. Pensez-vous que le numérique puisse nous conduire vers une forme de dictature mondiale ?
Il y a déjà une dictature mondiale, c'est celle du numérique. C'est celle de Google. Elle n'est pas politique, mais elle existe bel et bien, cachée derrière les écrans de nos ordinateurs. Car on ne peut plus faire sans. Qui peut se passer d'Internet aujourd'hui ? Nous sommes en train de vivre exactement ce qui est décrit dans 1984. Et nous ne faisons rien ou si peu pour lutter contre. Le roman de George Orwell était un livre prophétique. Le numérique nous impose un certain type de fonctionnement social à l'échelle planétaire.
Les données nous traquent en permanence.
Exactement. Et sans que nous le sachions, ni même que nous puissions avoir le moyen de le savoir. Un jour prochain, comme dans une célèbre série britannique, il sera peut-être tout à fait possible que les gens soient notés par rapport à leurs agissements, à leurs paroles, à ce qu'ils lisent et publient sur Internet. Chacun aurait une sorte de bulletin scolaire numérique. Au bout de 3 mauvais points, les citoyens ne pourraient plus prendre un avion ni passer les frontières. Il faut donc faire extrêmement attention à ce que ce type de contrôle policier par les données reste un scénario de cinéma ou de série télévisée et qu'il ne se produise pas chez nous. Nous ne pouvons pas céder sur ce qui constitue le cœur de nos libertés individuelles.
En tant qu'auteur, quel est votre point de vue sur la montée en puissance des intelligences artificielles créatrices ? Elles peuvent maintenant composer de la musique ou écrire des scénarios ?
Est-ce que l'imagination numérique est plus forte avec les algorithmes que l'imagination humaine ? C'est une question à la fois fascinante et terrifiante. Est-ce qu'il faut à tout prix essayer d'augmenter le cerveau humain ? De le rendre potentiellement plus rapide et plus puissant ? On touche ici à une limite et on joue avec le feu.
Dans votre bande dessinée Bug, vous décrivez un monde proche de l'effondrement. Cela est-il inévitable ?
Je pense que si tout se passe bien, les nouvelles générations auront la capacité de maîtriser les outils numériques et d'en faire quelque chose d'harmonieux. C'est peut-être utopique, mais c'est en tout cas potentiellement possible. Le problème, c'est de savoir si on va arriver à ça. Je ne doute pas qu'il y aura une forme de sagesse qui émergera et qui nous sauvera.
Maintenant, écoutez le premier enregistrement une seconde fois. Extrait numéro 1, interview de la chanteuse belge Angèle.
Bonjour Angèle.
Bonjour.
La thune, c'est avec ce morceau que démarre votre album. Et là tout de suite, on est pleinement dans votre univers. Ce côté acidulé, cette autodérision, cette faculté à rire de vos propres défauts. Vous ironisez beaucoup par rapport au narcissisme et à la gloire qui peut exploser du jour au lendemain. Mais il faut bien reconnaître que vous mordez un petit peu la main qui vous fait vivre. Ce sont les réseaux sociaux qui vous ont construite et propulsée.
C'est vrai, j'ai commencé par là. Et je crois que c'est à l'image de cette époque. Artistiquement, c'est facile de se développer seul. Pour moi, ça l'a été puisque j'ai commencé sur les réseaux sociaux avec des vidéos d'Instagram. Et ça a fait que les gens sont venus à des petits concerts qui sont devenus des plus grands concerts. Au final, j'ai fait une tournée avec seulement 2 morceaux qui étaient sur YouTube, que j'avais autoproduits. C'est la force des réseaux sociaux qui m'a permis vraiment de me développer artistiquement.
Sauf qu'il faut quand même avoir un petit peu de talent parce que tous ceux qui postent une vidéo sur YouTube ne réussissent pas comme vous.
J'ose espérer que le talent y est pour quelque chose.
Qu'est-ce que vous avez de plus ou de moins que les autres ?
Je ne peux pas répondre à cette question, moi. Je remarque de plus en plus, à force de lire des choses, à force de voir les questions qu'on me pose, que l'autodérision et l'humour reviennent très souvent. Donc je pense que c'est quelque chose qui fait du bien, à une époque où justement le narcissisme est devenu totalement assumé, voire carrément cool. Et donc la place de l'humour est un peu oubliée parfois, quand on est trop premier degré. Pour moi, l'humour est une immense arme.
Et côté musical, on est un peu dans le brol, pour reprendre un peu le titre de votre album. Alors ça veut dire quoi, brol ? C'est vraiment un mot qui appartient à la culture belge.
Oui, alors du brol, c'est comme du bazar. Quand on va au marché aux puces, c'est du brol. C'est tous ces objets un peu entassés. Il y a des souvenirs, il y a des choses récentes, il y a des vieilles choses. Il y a beaucoup de choses inutiles, voire obsolètes. Ça, c'est du brol. Et j'aime bien parce que c'est plutôt péjoratif, en général, quand on dit « il y a du brol ». C'est pas forcément bon, mais c'est pas non plus tellement négatif. C'est pas une insulte. Et j'aimais bien l'idée d'appeler mon album « brol » parce que ça rend la chose beaucoup moins sérieuse, en fait. Et les Belges me demandent « pourquoi brol ?» C'est comme si j'avais appelé mon album « inutile ». C'était un peu une blague pour dire « ça reste de la musique, c'est que du brol, en fait ».
Extrait numéro 2. Interview du dessinateur Enki Bilal à l'occasion de la sortie de son album « Bug ».
Dans « Bug », vous interrogez notre incapacité à nous passer du numérique. Comment vous est venue cette idée ?
Il y a quelques années, j'ai plongé dans une piscine avec mon smartphone. J'en ai été privé pendant plusieurs jours. C'était une expérience très déstabilisante qui m'a permis de réaliser à quel point j'avais besoin du numérique et de tous les appareils qui y sont associés. Ordinateur, tablette, smartphone. Ma bande dessinée « Bug » fait partie d'une réflexion sur la place du numérique dans nos vies.
Vous avez beaucoup travaillé sur la dictature. Pensez-vous que le numérique puisse nous conduire vers une forme de dictature mondiale ?
Il y a déjà une dictature mondiale, c'est celle du numérique. C'est celle de Google. Elle n'est pas politique, mais elle existe bel et bien, cachée derrière les écrans de nos ordinateurs. Car on ne peut plus faire sans. Qui peut se passer d'Internet aujourd'hui ? Nous sommes en train de vivre exactement ce qui est décrit dans 1984. Et nous ne faisons rien ou si peu pour lutter contre. Le roman de George Orwell était un livre prophétique. Le numérique nous impose un certain type de fonctionnement social à l'échelle planétaire.
Les données nous traquent en permanence.
Exactement. Et sans que nous le sachions, ni même que nous puissions avoir le moyen de le savoir. Un jour prochain, comme dans une célèbre série britannique, il sera peut-être tout à fait possible que les gens soient notés par rapport à leurs agissements, à leurs paroles, à ce qu'ils lisent et publient sur Internet. Chacun aurait une sorte de bulletin scolaire numérique. Au bout de 3 mauvais points, les citoyens ne pourraient plus prendre un avion ni passer les frontières. Il faut donc faire extrêmement attention à ce que ce type de contrôle policier par les données reste un scénario de cinéma ou de série télévisée et qu'il ne se produise pas chez nous. Nous ne pouvons pas céder sur ce qui constitue le cœur de nos libertés individuelles.
En tant qu'auteur, quel est votre point de vue sur la montée en puissance des intelligences artificielles créatrices ? Elles peuvent maintenant composer de la musique ou écrire des scénarios ?
Est-ce que l'imagination numérique est plus forte avec les algorithmes que l'imagination humaine ? C'est une question à la fois fascinante et terrifiante. Est-ce qu'il faut à tout prix essayer d'augmenter le cerveau humain ? De le rendre potentiellement plus rapide et plus puissant ? On touche ici à une limite et on joue avec le feu.
Dans votre bande dessinée Bug, vous décrivez un monde proche de l'effondrement. Cela est-il inévitable ?
Je pense que si tout se passe bien, les nouvelles générations auront la capacité de maîtriser les outils numériques et d'en faire quelque chose d'harmonieux. C'est peut-être utopique, mais c'est en tout cas potentiellement possible. Le problème, c'est de savoir si on va arriver à ça. Je ne doute pas qu'il y aura une forme de sagesse qui émergera et qui nous sauvera.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Deuxième sous-partie. Dans cette deuxième sous-partie, vous allez écouter la synthèse d'un débat sur l'intérêt de proposer un enseignement artistique à l'école. Dans l'enregistrement, vous entendrez 5 avantages et 5 difficultés en relation avec ce thème. Vous avez 2 séries de 5 questions auxquelles vous devrez associer la bonne réponse. Lisez bien les questions avant l'écoute. Vous devrez associer les 10 bonnes réponses tout en écoutant l'enregistrement. Pour les questions de 11 à 15, choisissez les avantages de la première liste de A à H. Pour les questions de 16 à 20, choisissez parmi les critiques dans la deuxième liste de A à H. Attention, il y a 3 réponses supplémentaires qui ne seront pas utilisées. À chaque fois, une seule réponse est correcte. Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d'une petite croix. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire les questions de 11 à 20. Écoutez maintenant le deuxième enregistrement. L'art est souvent décrit comme le parent pauvre de l'école. En France, l'éducation artistique et culturelle est élevée au rang de priorité par le gouvernement actuel. Mais qu'en est-il réellement? Quelle place pour la culture et l'art à l'école? Les maths et la littérature sont-ils des enseignements plus importants? Voici quelques témoignages de nos auditeurs.
Bonjour, c'est Malika de Tunis. Pour moi, l'enseignement artistique aide à la réussite scolaire. On peut beaucoup mieux comprendre les dessins que les mathématiques. Par les arts plastiques, on aborde plus facilement et beaucoup plus concrètement l'histoire, l'archéologie, la géométrie, les matières abstraites. Comment alors affirmer que l'art ne sert à rien? C'est au contraire un excellent moyen pour développer les compétences dans d'autres matières et acquérir une solide culture générale. Le vrai problème, c'est le manque de moyens matériels. Comment proposer un enseignement artistique de qualité quand les écoles ne possèdent pas les infrastructures nécessaires? Une option théâtre, c'est formidable, mais comment fait-on quand toutes les salles de classe sont utilisées à 100% et qu'il ne reste plus d'espace adapté pour de telles activités? On n'ose même pas rêver d'une salle de spectacle par établissement scolaire. Accueillir les intervenants, des artistes, est en soi une excellente chose, mais comment les rémunérer?
Roland, de Saint-Étienne. Alors moi, je voudrais témoigner pour dire qu'il s'agit d'un apprentissage avant tout motivant et pratique, qui développe la créativité en sortant un peu de l'ordinaire, en explorant de nouveaux modes d'expression. Quand on apprend dans la joie et l'amusement, on apprend forcément mieux. Certes, on peut se demander si l'art est une matière qui peut réellement s'enseigner. Tous les élèves ne sont pas créatifs, tous n'ont pas le même talent, il faut l'admettre. Imposer une éducation artistique, dans certains cas, risque d'entraîner un rejet de la part des élèves qui ne sont pas à l'aise dans les disciplines en question. Alors oui, à ce type d'enseignement, mais avec prudence.
C'est Louise, je vous écoute de Toulouse. Alors moi, je suis un peu perplexe. On nous dit toujours que les journées des élèves sont trop chargées, avec les matières dites classiques, qu'il y a trop de matières, que les cartables sont trop lourds, etc. Alors est-il vraiment pertinent de charger davantage les emplois du temps avec les matières artistiques ? Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire que la mission de l'école, c'est quand même d'être ouverte sur la vie. Et honnêtement, je pense que l'éducation artistique est le meilleur moyen de donner aux jeunes des lycées la possibilité de découvrir des œuvres, de rencontrer des artistes, bref, d'accéder à la culture. Alors, perte de temps, vraiment, je pense que non.
Bonjour, Salomé de Genève. Je pense que dans un monde où le marché de l'emploi est saturé, il est raisonnable de renforcer la qualité des matières qui peuvent offrir des débouchés à nos élèves. Les mathématiques, les langues vivantes, l'économie sont professionnalisantes. En revanche, le secteur artistique semble bouché, sans vraie possibilité d'emploi pour les élèves. Alors, à quoi bon ? Mais je ne voudrais pas condamner sans appel ce type d'enseignement. Ce que j'apprécie, pour l'avoir vécu moi-même, c'est qu'il aide à rendre la société plus égalitaire, à casser le clivage qui voudrait que l'art ne soit accessible qu'à un certain milieu favorisé. Les élèves comprennent qu'aborder la musique ou la peinture ne nécessite pas de code particulier, mais juste une écoute profonde de sa sensibilité.
Bonjour, je m'appelle Blanche. J'enseigne les mathématiques à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Je voudrais tirer la sonnette d'alarme. Je pense qu'on fait une grande erreur en négligeant les fondamentaux. Apprendre à lire, écrire, compter. Dans notre système, il y a malheureusement trop d'élèves qui restent sur le bord de la route, qui n'arrivent pas à avoir une scolarité normale, parce qu'à un moment, les apprentissages de base ont été insuffisants. Alors les arts, c'est bien joli, c'est la cerise sur le gâteau, mais commençons par résoudre les autres problèmes de l'école. En revanche, je trouve utile de créer une chorale à l'école. L'élève se trouve responsabilisé, il comprend qu'il a un rôle à jouer pour que l'ensemble soit mené à bien. Contrairement aux matières scolaires traditionnelles, on ne vise pas la réussite individuelle, mais plutôt le succès du projet collectif grâce à la solidarité.
Maintenant, écoutez le deuxième enregistrement une seconde fois. L'art est souvent décrit comme le parent pauvre de l'école. En France, l'éducation artistique et culturelle est élevée au rang de priorité par le gouvernement actuel. Mais qu'en est-il réellement ? Quelle place pour la culture et l'art à l'école ? Les maths et la littérature sont-ils des enseignements plus importants ? Voici quelques témoignages de nos auditeurs.
Bonjour, c'est Malika de Tunis. Pour moi, l'enseignement artistique aide à la réussite scolaire. On peut beaucoup mieux comprendre les dessins que les mathématiques. Par les arts plastiques, on aborde plus facilement et beaucoup plus concrètement l'histoire, l'archéologie, la géométrie, les matières abstraites. Comment alors affirmer que l'art ne sert à rien ? C'est au contraire un excellent moyen pour développer les compétences dans d'autres matières et acquérir une solide culture générale. Le vrai problème, c'est le manque de moyens matériels. Comment proposer un enseignement artistique de qualité quand les écoles ne possèdent pas les infrastructures nécessaires ? Une option théâtre, c'est formidable, mais comment fait-on quand toutes les salles de classe sont utilisées à 100% et qu'il ne reste plus d'espace adapté pour de telles activités ? On n'ose même pas rêver d'une salle de spectacle par établissement scolaire. Accueillir les intervenants, des artistes, est en soi une excellente chose, mais comment les rémunérer ?
Roland, de Saint-Étienne. Alors moi, je voudrais témoigner pour dire qu'il s'agit d'un apprentissage avant tout motivant et pratique, qui développe la créativité en sortant un peu de l'ordinaire, en explorant de nouveaux modes d'expression. Quand on apprend dans la joie et l'amusement, on apprend forcément mieux. Certes, on peut se demander si l'art est une matière qui peut réellement s'enseigner. Tous les élèves ne sont pas créatifs, tous n'ont pas le même talent, il faut l'admettre. Imposer une éducation artistique, dans certains cas, risque d'entraîner un rejet de la part des élèves qui ne sont pas à l'aise dans les disciplines en question. Alors oui, à ce type d'enseignement, mais avec prudence.
C'est Louise, je vous écoute de Toulouse. Alors moi, je suis un peu perplexe. On nous dit toujours que les journées des élèves sont trop chargées, avec les matières dites classiques, qu'il y a trop de matières, que les cartables sont trop lourds, etc. Alors est-il vraiment pertinent de charger davantage les emplois du temps avec les matières artistiques ? Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire que la mission de l'école, c'est quand même d'être ouverte sur la vie. Et honnêtement, je pense que l'éducation artistique est le meilleur moyen de donner aux jeunes des lycées la possibilité de découvrir des œuvres, de rencontrer des artistes, bref, d'accéder à la culture. Alors, perte de temps, vraiment, je pense que non.
Bonjour, Salomé de Genève. Je pense que dans un monde où le marché de l'emploi est saturé, il est raisonnable de renforcer la qualité des matières qui peuvent offrir des débouchés à nos élèves. Les mathématiques, les langues vivantes, l'économie sont professionnalisantes. En revanche, le secteur artistique semble bouché, sans vraie possibilité d'emploi pour les élèves. Alors, à quoi bon ? Mais je ne voudrais pas condamner sans appel ce type d'enseignement. Ce que j'apprécie, pour l'avoir vécu moi-même, c'est qu'il aide à rendre la société plus égalitaire, à casser le clivage qui voudrait que l'art ne soit accessible qu'à un certain milieu favorisé. Les élèves comprennent qu'aborder la musique ou la peinture ne nécessite pas de code particulier, mais juste une écoute profonde de sa sensibilité.
Bonjour, je m'appelle Blanche. J'enseigne les mathématiques à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Je voudrais tirer la sonnette d'alarme. Je pense qu'on fait une grande erreur en négligeant les fondamentaux. Apprendre à lire, écrire, compter. Dans notre système, il y a malheureusement trop d'élèves qui restent sur le bord de la route, qui n'arrivent pas à avoir une scolarité normale, parce qu'à un moment, les apprentissages de base ont été insuffisants. Alors les arts, c'est bien joli, c'est la cerise sur le gâteau, mais commençons par résoudre les autres problèmes de l'école. En revanche, je trouve utile de créer une chorale à l'école. L'élève se trouve responsabilisé, il comprend qu'il a un rôle à jouer pour que l'ensemble soit mené à bien. Contrairement aux matières scolaires traditionnelles, on ne vise pas la réussite individuelle, mais plutôt le succès du projet collectif grâce à la solidarité.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Maintenant, prenez la feuille marquée d'un stylo. Troisième sous-partie. Vous allez écouter un court reportage sur l'utilité de la lecture. Complétez les phrases de 21 à 30 en utilisant les informations du texte. Répondez par un ou deux mots selon les indications. À chaque fois, vous devez utiliser un seul mot pour compléter l'espace manquant. Écrivez les mots qui manquent sur la feuille marquée d'un stylo. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire les phrases. Écoutez maintenant le troisième enregistrement.
Se perdre dans un livre est particulièrement agréable quand vient l'été, n'est-ce pas? Les transats n'attendent que cela, qu'on s'y prélasse avec un bon roman. En hiver aussi, sous une couverture avec un bon chocolat, lire est tout à fait recommandé par les psychologues et scientifiques. Pour moi, lire de la fiction est une source de joie et de plaisir, en plus d'être une échappatoire au stress et à l'ennui. Avez-vous déjà pensé aux bienfaits que procure le fait de s'abandonner à un roman? Quand je lis, je pense et je ressens les choses de façon différente. J'abandonne certaines de mes habitudes et pensées, et cela me permet de me projeter dans une personne différente et dans des circonstances que j'aurais pu ne jamais rencontrer. La lecture est indispensable pour comprendre les autres, apprendre à se mettre à leur place et se comprendre soi-même. Plus d'importance devrait être accordée au pouvoir de l'art dans la construction de la personnalité et l'évolution de la maturité. Avez-vous déjà entendu parler de cette expérience menée par une équipe de chercheurs américains ? Ils ont voulu comprendre ce sentiment d'appartenance provoqué par la lecture. Un groupe de 140 étudiants et étudiantes a été invité à lire le même ouvrage de fiction pendant une demi-heure. Les élèves ont rapporté avoir eu le sentiment de faire partie du monde des personnages et avoir éprouvé des sentiments de satisfaction et de joie similaires à ceux ressentis lors d'interactions sociales réelles. Or, nous savons que se sentir connecté aux autres est un élément déterminant du bien-être mental. Après avoir posé notre roman, nos interactions avec les autres dans le monde réel sont de meilleure qualité. Les plus grands lecteurs et lectrices sont aussi ceux et celles qui marquent le plus de points aux tests d'empathie et d'habileté sociale. En s'identifiant à un personnage, on en vit brièvement les émotions. Une autre recherche établit que la lecture est un excellent stimulant des connexions neuronales et de l'activité globale du cerveau. En 2013, une étude relevait que le cerveau des personnes qui lisent décline moins rapidement. Elles vivent donc en moyenne plus longtemps. Lire, c'est enfin s'échapper, rêver. Si vous avez besoin d'une pause dans votre routine quotidienne, lire peut permettre d'emporter votre esprit loin de vos tracas, au moins temporairement. Une personne absorbée dans l'univers d'une histoire n'est pas en train de ruminer ses propres soucis. Alors, chers auditeurs, pensez-y ce soir, avant d'allumer la télévision.
Maintenant, écoutez le troisième enregistrement une seconde fois.
Se perdre dans un livre est particulièrement agréable quand vient l'été, n'est-ce pas? Les transats n'attendent que cela, qu'on s'y prélasse avec un bon roman. En hiver aussi, sous une couverture avec un bon chocolat, lire est tout à fait recommandé par les psychologues et scientifiques. Pour moi, lire de la fiction est une source de joie et de plaisir, en plus d'être une échappatoire au stress et à l'ennui. Avez-vous déjà pensé aux bienfaits que procure le fait de s'abandonner à un roman? Quand je lis, je pense et je ressens les choses de façon différente. J'abandonne certaines de mes habitudes et pensées, et cela me permet de me projeter dans une personne différente et dans des circonstances que j'aurais pu ne jamais rencontrer. La lecture est indispensable pour comprendre les autres, apprendre à se mettre à leur place et se comprendre soi-même. Plus d'importance devrait être accordée au pouvoir de l'art dans la construction de la personnalité et l'évolution de la maturité. Avez-vous déjà entendu parler de cette expérience menée par une équipe de chercheurs américains ? Ils ont voulu comprendre ce sentiment d'appartenance provoqué par la lecture. Un groupe de 140 étudiants et étudiantes a été invité à lire le même ouvrage de fiction pendant une demi-heure. Les élèves ont rapporté avoir eu le sentiment de faire partie du monde des personnages et avoir éprouvé des sentiments de satisfaction et de joie similaires à ceux ressentis lors d'interactions sociales réelles. Or, nous savons que se sentir connecté aux autres est un élément déterminant du bien-être mental. Après avoir posé notre roman, nos interactions avec les autres dans le monde réel sont de meilleure qualité. Les plus grands lecteurs et lectrices sont aussi ceux et celles qui marquent le plus de points aux tests d'empathie et d'habileté sociale. En s'identifiant à un personnage, on en vit brièvement les émotions. Une autre recherche établit que la lecture est un excellent stimulant des connexions neuronales et de l'activité globale du cerveau. En 2013, une étude relevait que le cerveau des personnes qui lisent décline moins rapidement. Elles vivent donc en moyenne plus longtemps. Lire, c'est enfin s'échapper, rêver. Si vous avez besoin d'une pause dans votre routine quotidienne, lire peut permettre d'emporter votre esprit loin de vos tracas, au moins temporairement. Une personne absorbée dans l'univers d'une histoire n'est pas en train de ruminer ses propres soucis. Alors, chers auditeurs, pensez-y ce soir, avant d'allumer la télévision.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Terminez maintenant le travail sur cette partie du test. Fin de la première partie, le test continue à la page suivante.